Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Le programme alimentaire mondial PAM poursuit d'autres programmes d'assistance humanitaire dans le Nord Kivu. Cette agence du système des Nations Unies n'a suspendu que le programme de distribution générale des vivres dans au moins 34 sites déplacés. Selon le chargé des communications du PAM, la distribution des vivres devra désormais se faire sur la base du niveau des vulnérabilités des déplacés. Disons que le Nord Kivu compte actuellement 1,1 million de déplacés internes qui ont besoin d'assistance. Et nous faisons le point partant de cette situation sur l'activité humanitaire à travers le pays et comment assister efficacement les déplacés. Nous recevons dans ce studio pour en parler Yvon Edoumou, chargé de l'information publique à l'Agence des coordinations des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad. Jir Lungembo assure la coordination et la réalisation de cette émission mise en onde par Guma Zangou. Pierrot et la Meji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka, 081 890 4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Bienvenue à tous.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Partant des activités du programme alimentaire mondial, particulièrement au Nord Kivu, où la distribution des vivres va continuer désormais sur base de la vulnérabilité de déplacés, nous faisons le point, profitant de cette situation, sur l'activité humanitaire dans le pays. Comment vous jugez cette activité humanitaire? Et la deuxième question qui consiste à des solutions pour pouvoir assister efficacement les déplacés. Voilà, nous en parlons avec vous, fidèles auditeurs. Mais nous faisons aussi le point, comme je le disais tout à l'heure, avec notre invité, Yvon Edoumou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Et nous parlons de l'activité humanitaire, en partant bien sûr des activités qui mènent le programme alimentaire mondial. Mais on sait qu'à côté du PAM, il y a aussi d'autres agences du système des Nations Unies qui travaillent dans l'humanitaire à travers le pays. Mais bien avant de pouvoir nous plonger dans les activités, parlons en ce qui concerne les chiffres aujourd'hui par rapport à notre dernière émission. Combien s'élèvent aujourd'hui les déplacés internes qui ont besoin de l'assistance?
Alors, merci Pierrot, c'est toujours un plaisir d'être ici pour en parler. Aujourd'hui, dans le Nord Kivu, dans la RDC, nous avons plus de 2,9 millions de personnes qui sont déplacées, dont plus d'un million, comme tu l'as dit tantôt, au Nord Kivu. Donc le Nord Kivu abrite en fait le plus grand pourcentage de personnes déplacées. Nous avons aussi des chiffres qui sont assez alarmants au Katanga, où nous avons eu une hausse assez significative du nombre de personnes déplacées depuis ces 24 derniers mois. Évidemment aussi en province orientale, voilà. Donc en somme, c'est toute l'Est de la RDC qui est en insécurité et qui pousse des milliers de personnes à se déplacer pour fuir les affrontements ou les groupes armés qui écument cette partie du pays.
Mais est-ce que l'assistance est plus facile pour atteindre toutes ces personnes? On sait qu'il y a deux fois ceux qui se déplacent, vous l'avez dit tout à l'heure, à cause de l'insécurité, mais il y a aussi des opérations militaires. Est-ce que tout cela facilite l'accès à l'assistance?
Alors, effectivement, nous travaillons dans un contexte, quand je dis nous, pas seulement les Nations Unies, mais aussi les ONG nationales et internationales, nous travaillons dans un contexte qui est assez difficile, assez précaire à cause de l'insécurité. Mais évidemment, cela ne nous empêche pas de le faire. Le travail humanitaire est fait de cela. Ce n'est pas un travail où vous avez la latitude de forcément travailler dans les meilleures de conditions. Ce serait idéal, mais ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que nous sommes obligés d'aller dans des zones où nous sommes, nous faisons face à des contraintes, j'allais dire sécuritaires, ou parfois, comme dans le cas de la RDC, nous faisons aussi face à des contraintes logistiques, c'est-à-dire l'absence de routes, de voies de communication pour pouvoir atteindre ces populations qui sont souvent, qui habitent souvent dans des contrées, dans des endroits éloignés. Mais il faut quand même faire ce travail d'aller leur apporter l'aide, l'assistance dont ils ont besoin.
Mais comment ces structures, l'assistance humanitaire, elle est, on peut dire, touchée uniquement quand il y a des catastrophes, par exemple quand il y a des affrontements, ou vous avez aussi une assistance humanitaire qui s'inscrit dans la durée? Comment cela est-il structuré?
Alors, l'aide humanitaire, nous la donnons à ceux qui en sont victimes, soit, comme tu l'as dit, d'insécurité ou de conflits, ou de catastrophes naturelles. Donc, ce sont principalement ces deux cas de figure qui permettent de distribuer l'aide humanitaire. Mais l'aide humanitaire est une aide d'urgence. Notre vocation n'est pas d'accompagner ces personnes tout le restant de leur vie, mais c'est de pouvoir leur permettre de subvenir à leurs besoins immédiats dans un délai assez court, idéalement, afin qu'éventuellement elles puissent se prendre en charge elles-mêmes et commencer à reprendre les activités économiques qu'elles menaient avant de tomber dans cette situation de crise. Donc, notre vocation la vocation de l'humanitaire est de courte durée, afin de permettre aux gens de répondre à leurs besoins immédiats, et éventuellement d'autres structures viendront nous relayer pour, j'allais dire, la transition vers des solutions beaucoup plus pérennes, beaucoup plus durables.
Et avant d'écouter les auditeurs, et comment s'organise l'intervention sur terrain? Il y a les Nations Unies, il y a les organisations non gouvernementales internationales, locales, le pouvoir public. Comment tout cela est-il organisé dans cette intervention humanitaire?
Bien, tous ces acteurs travaillent ensemble. Les Nations Unies, les agences humanitaires des Nations Unies, les ONG nationales et internationales et le gouvernement congolais, c'est une grande famille. Et en fait, c'est ça le rôle de OCHA. Le rôle de OCHA, c'est de faciliter un peu tout ce travail. Il y a beaucoup d'acteurs, donc on peut s'imaginer que sans une bonne coordination, ce travail serait difficile. On pourrait avoir des doublons, des activités qui se chevauchent. Donc, le but de OCHA, c'est de mettre ensemble tous ces acteurs et assurer que l'aide qui est apportée est faite à bon escient, de façon efficace, qu'il n'y a pas de chevauchement, mais c'est un travail qui ne peut être fait uniquement par l'une ou par l'autre des parties. C'est un travail qui doit être fait en commun avec toutes les parties qui sont impliquées dans la crise ici en RDC.
Voilà, on va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs, vos propositions pour qu'il y ait une action très efficace dans ce travail de l'humanitaire en RDC. Le regard que vous posez sur tout cela, 081-890-4969. Nous avons Galvani qui est en Boujimaï, Adrien à Kananga, Omar à Kinshasa. Nous allons vous accorder la parole.
Parole aux auditeurs.
Galvani, vous nous appelez d'Mbujimayi au Kassai Oriental. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous.
Et nous faisons ensemble le point sur les activités humanitaires. C'est que vous pensez de tout cela, mais aussi vos pistes de solutions pour que cela soit encore plus efficace sur terrain pour toucher et les déplacer. Votre point de vue.
Merci pour la parole. Pour moi, je crois que d'abord l'action humanitaire en RDC vaut vraiment son pesant d'or. Vu vraiment la situation humanitaire qui est vraiment très critique dans notre pays. Et vu que vraiment les ministères qui devaient vraiment s'en occuper plus n'existent presque de non seulement le ministère des affaires humanitaires ou le ministère des affaires sociales, qui n'est presque pas vraiment très dynamique. Alors vu aussi que la situation qui est très critique, les humanitaires sont très critiques et que l'action vraiment des humanitaires est vraiment encouragée, on ne peut même pas s'en passer ici en RDC. Que la situation des déplacés, des réfugiés, et le gouvernement n'agit pas tout vite, surtout vite, mais ce sont les humanitaires qui sont sur le terrain, qui palpent aussi du doigt la réalité sur le terrain, qui essaient un peu de nous aider. Et je prends peut-être par exemple dernièrement avec l'explosion qui a eu à Mbujimayi. Nous avons vu la Croix-Rouge qui était sur place, qui a essayé un peu de dire tant bien que mal la situation, sinon si elle n'était pas là, certaines personnes qui sont blessées pouvaient perdre l'air comme ça s'ils n'étaient pas évacués avant. Alors maintenant, pour renforcer l'action humanitaire, il faut d'abord que nous l'État cherche à sécuriser d'abord les gens qui sont sur terre. Parce qu'il y a certains endroits où les humanitaires n'arrivent pas, où il y a besoin, mais ne peuvent pas y aller parce qu'il y a vraiment l'insécurité bat le record là-bas. Et donc, les humanitaires ne peuvent pas s'attarder et arriver. Or, il y a une population qui est dans les besoins. Donc, pour moi, l'action majeure du gouvernement, que le gouvernement peut faire, c'est renforcer d'abord la sécurité, restaurer son autorité de l'État sur tout le plan. Et aussi, les organismes et les organisations humanitaires doivent aussi travailler en synergie, disons. C'est-à-dire, ils doivent travailler en collaboration dans le sens que non, il n'y a pas seulement que notre secteur est réservé à tel, ou lorsqu'ils sont sur terrain, ils travaillent en synergie pour que, parce qu'ils sont là juste pour aider la population. Et
Voilà, si on vous suit bien, Galvanine, commençons d'abord par le premier volet de votre intervention. Vous insistez beaucoup sur l'importance de l'action humanitaire, des activités humanitaires dans notre pays, vu la situation d'insécurité que nous connaissons. Et vous avez d'ailleurs évoqué cette qui est arrivée en Boujmaï, cette explosion dans les magasins d'armement qui a causé 21 décès, autant de blessés. Et alors là, vous avez salué l'action de la Croix-Rouge, mais désolé pour vous, parce que on ne sent pas la rapidité, la promptitude du ministère des Affaires sociales et Affaires humanitaires qui devait en principe aussi travailler dans ces domaines. Vous pensez qu'il serait mieux de le renforcer. Mais en ce qui concerne la deuxième intervention, il faudrait que l'État facilite, n'est-ce pas, aux humanitaires la tâche en assurant la sécurité dans les zones où ils doivent livrer l'aide humanitaire et aussi qu'il y ait cette collaboration entre les différentes agences et ONG sur terrain. Merci beaucoup Galvani. Adrien, vous êtes à Kananga, dans la province du Kassai occidental, à côté de Mbujumaï. Bonjour, Adrien.
Oh, bonjour, Pierrot et la Menji. Bonjour à Galvani, bonjour à Omar.
On vous a suivi, vous avez suivi notre compatriote de Mbujumaï, votre point de vue sur la manière de rendre plus efficace encore l'assistance aux déplacés. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ok, merci, Pierrot, pour la question. Je commence d'abord par saluer les performances, les efforts fournis par le PAM, parce que ces efforts sont manifestes et palpables, mais seulement dans certaines provinces, pas dans la province du Kassai occidental. Peut-être ça peut s'expliquer, selon eux, c'est une province qui ne connaît pas, donc qui ne connaît pas de guerre, donc une province où il y a une accalmie. Peut-être c'est ce qu'on pourra nous dire, mais néanmoins, vous êtes sans ignorer que notre province est aussi victime des réfugiés, donc ceux-là qui sont en Angola, ils viennent en masse lorsqu'ils sont expulsés, mais il faut les voir du côté de Chicapa, comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir, parce que nous, la société civile, nous avons monté au créneau pour demander à nos amis donc des PAM s'ils ne pouvaient pas intervenir. À partir de cela, ça me donne même donc le goût de poser la question à notre invité, comment est-ce qu'eux canalisent leurs interventions? Est-ce que c'est pour les sinistrés de guerre tout simplement, ou bien leur aide c'est pour tout sinistré, parce que les cas que je venais de citer en est une illustration. Deuxièmement, Pierrot, je pense que en ce qui concerne maintenant les recommandations, c'est une matière à réflexion pour notre gouvernement, parce que on ne doit pas toujours rester bras croisés en attendant les humanitaires étrangers. Notre gouvernement peut aussi faire quelque chose. Là, je suis en train de proposer, pourquoi pas dans chaque province, chaque gouvernement provincial peut créer une caisse de solidarité dans chaque province, pour intervenir d'abord le plus rapidement possible, en attendant le PAM peut ou ne pas intervenir, parce qu'il n'est pas obligé d'intervenir. Donc là, c'est de un qui est création des caisses de solidarité dans chaque province. Deuxièmement, comme Galvani l'a dit, il faut vraiment amplifier ou bien renforcer la sécurité, parce que nous apprenons ça et là, lorsque le PAM intervient, l'air bien sont soit pillés par les coupeurs de route, par les groupes armés qui opèrent ça et là. Donc s'il y a la sécurité, on peut quand même aider certaines populations sinistrées du côté est, parce que c'est là que les femmes sont à pied d'œuvre. Voilà d'une manière brève ce que je pouvais vous dire ce matin.
Merci beaucoup Adrien. On pourra voir avec notre invité quand on parle des humanitaires. Il n'y a pas seulement le programme alimentaire mondial, il y en a beaucoup. Il pourra nous donner plus de précisions, qui agit dans quel domaine. Mais là, parce qu'il y a eu ces gens qui retournent de l'Angola, qui sont démunis de tout, qui n'ont pas à manger, vous auriez souhaité voir aussi le programme alimentaire mondial et d'autres humanitaires s'occuper de ces retournés. Et vous avez posé la question à notre invité de savoir si seulement on intervient que pour ceux-là qui sont touchés par l'insécurité, mais ceux qui sont expulsés des autres pays, et vous souhaiterez aussi voir les pouvoirs publics qui travaillent et créer des caisses de solidarité en province pour pouvoir travailler, assister à ceux qui sont dans les besoins, comme les déplacer, plutôt que d'attendre toujours à l'extérieur, et puis renforcer la sécurité. Merci beaucoup Adrien. Omar, vous êtes dans la capitale à Kinshasa, bonjour.
Très heureux de recevoir de votre part la parole, tout en vous remerciant Pierre Lamège, et merci aussi à tous les auditeurs qui ont intervenu avant moi. Merci beaucoup de la parole, comme je le disais. Ce qui m'a toujours fait mal, Pierrot, c'est que lorsque on voit à la télévision des victimes des atrocités naturelles ou des calamités de guerre en train de demander, et j'ai toujours voulu rappeler à tout le monde que l'assistance humanitaire n'est pas une faveur qu'on accorde aux victimes. C'est un droit qui est reconnu par le texte, tant international qu'interne. Je voudrais rappeler ici rapidement, pour ne pas perdre le temps, la déclaration du 8 décembre 1948, pour ne pas aussi citer le pacte international relatif aux droits civils et politiques. On peut aussi citer la convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié. Et dans notre pays, la RDC, nous avons l'article 33 de la Constitution et la loi du 16 octobre 2002 portant statut de réfugié. Tous ces textes, Pirou, obligent à tous les États parties qui ont signé ces textes internationaux rendre une assistance humanitaire. Ce n'est pas une faveur, les États sont obligés. Et tout État qui ne fait pas un tel acte viole intentionnellement les actes humanitaires. Alors, nous remarquons aujourd'hui, nous avons même suivi l'amoindrissement de l'action des femmes. C'est déplorable parce que le conseil est amer. À mon avis, je pense que cela est déductible, n'est-ce pas, du manque de volonté des États qui ont signé eux-mêmes ces actes humanitaires. Leur gouvernement ne fournissent pas un effort de créer des structures pour intervenir. Il y a aussi un problème de l'inconscience ou la cupidité de certains promoteurs des ONG. Elles ont été financées par des bailleurs de fonds, mais sur terrain, leurs actions ne sont pas impactées visibles. Alors, que pouvons-nous faire pour que ces cas humanitaires ne passent plus problème de débat? Premièrement, les États parties, via leur gouvernement, une case hospitalière qui est la RDC, doit créer un fonds humanitaire. Je me souviens, nous avons eu une émission, vous avez invité les ministres. Il a dit que ces fonds existent. Si c'est vraiment ces fonds existent, il faut que chaque élaboration budgétaire qu'on puisse prévoir, ceux qui tuent les dirigeants africains, ceux qu'ils aiment subir et non prévenir. Les cas humanitaires peuvent intervenir ad nultum, à tout moment. Et il faudra que les États soient préventifs pour savoir que tel jour peut venir en créant des fonds. Ils doivent aussi, ces gouvernements qui ont signé ces traités internationaux, qui leur sont imposables, de créer des conditions pour faciliter l'action des humanitaires. Et B, les ONG ne doivent pas se limiter seulement à décrier la violation des droits de l'homme. Elles doivent aussi prendre l'argent qu'on les affecte pour des cas humanitaires. Cet argent n'est pas là pour enrichir leur poche. Une ONG est une association de bienfaisance. Et pour finir, Maître Adrien dit que le PAM n'est pas obligé. Non, l'ONU est la garante des droits humanitaires au monde. C'est à travers elle qu'on voit l'action. Le PAM est obligé, mais seulement les États doivent collaborer avec le PAM. On ne sait pas pourquoi le PAM a désisté ou l'action a amoindri. Peut-être les États ne contribuent pas, peut-être ce n'est pas cela. Voilà pourquoi je voulais interpeller l'ONU en disant, on doit commencer à sanctionner. La valeur d'une loi n'a de sens que si elle a des sanctions. Tous les États qui sont indifférents vis-à-vis des textes qu'ils ont ratifiés, il faudra les sanctionner et les pousser à agir. Et aussi, les PAM doivent mobiliser beaucoup de ressources. Pour finir, il faut que nous aussi, population, qui vivons ces choses, puissent assister les nôtres en créant, comme l'a dit Maître Adrien, une caisse de solidarité populaire. Je pense, à mon avis, la sommation de ces petites solutions pourra tant soit peu aborder la solution dans ces problèmes.
Merci beaucoup, Omar. Vous avez évoqué autant de textes juridiques pour démontrer clairement que l'assistance aux victimes, hein, n'est pas une faveur, mais c'est l'obligation des États, ceux qui ont signé. Et comme ils ont cette obligation, ils doivent collaborer, ils doivent contribuer, ils doivent disponibiliser des fonds, pourquoi pas créer des fonds humanitaires pour ces États, permettre à ces qu'on puisse se prévenir au cas où il y a de problèmes, des cas, ça peut arriver. Et vous souhaiterez aussi que pour ceux qui mobilisent des fonds pour l'action humanitaire, que ces fonds soient vraiment affectés à l'action humanitaire. Merci beaucoup, Omar. Maître Mashaka, vous êtes à Lubumbashi, dans le Katanga. Bonjour. Maître Mashaka, vous êtes avec nous de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les invités de la radio Capine.
Alors, vous avez suivi les uns et les autres plusieurs propositions de notre ami Omar, hein, qui pense, comme l'a dit Adrien et Galvani, que si les États pouvaient avoir des fonds humanitaires, ça pourrait permettre de faciliter le travail en cas de besoin, plutôt toujours que d'attendre, bien sûr, de l'extérieur. Quand bien même les ONG, les États ont l'obligation de pouvoir assister les déplacés pour vous, qu'est-ce qui doit être fait?
Merci beaucoup, mais vous savez, le travail dont les organismes internationaux sont en train d'abattre dans notre pays est louable, M. Perrault. Puisque vous savez, aujourd'hui, avant, s'il y a une situation qui survient dans notre pays, avant l'arrivée des organismes internationaux, il y a toujours les catastrophes, mais après leur arrivée, il y a quand même l'amélioration. Maintenant, le problème qui est là, c'est tout le monde qui doit s'impliquer pour et une bonne marche des activités des organismes internationaux, mais internationaux, M. Pierrot. Deuxièmement, M. Pierrot, vous savez que il y a beaucoup d'histoires que ces organismes-là importent. Par exemple, comme les vivres, la farine, les haricots et consorts. Ce que moi, je pourrais encore proposer pour une assistance efficace de ces organismes, pourquoi ne pas créer le système des champs communautaires, par exemple, dans chaque district, là où ils encadrent, même s'il n'y a pas la guerre, ils créent ce système de champs là, comme ça, ils commencent à produire ces matières-là qu'ils pouvaient produire localement ici, de sorte qu'il y ait le système de cantine. Dès qu'il y a une situation qui survient dans un coin du pays, là, ils ne savent que seulement prendre ces histoires-là et aller distribuer aux concernés. Ça pourrait assister notre pays dans deux sens, M. Pierrot. Ça va augmenter la production et ça va aussi aider à assister les personnes démunies, M. Pierrot. Au lieu de se borrer toujours à importer, et pourtant, ils dépensent beaucoup d'argent et il y a aussi les insécurités en cours de route en acheminant ces histoires-là, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Mashaka. C'est très louable le travail que font les humanitaires. Mais vous proposerez, hein, l'implication des 12 pour la réussite de ce travail. Et vous souhaitez même qu'on ait des champs communautaires qui peuvent permettre à ce que, quand on est dans les besoins, au lieu que le programme alimentaire mondial ou bien une autre structure puisse importer la nourriture loin de lieux de drame, il serait mieux de recourir à la production locale pour pouvoir servir les déplacés pour éviter les coûts des transports et autres. Merci pour cette proposition. On va écouter Daniel qui est à Kisangani et revenir dans ce studio pour que notre invité puisse réagir. Daniel, vous êtes avec nous. Vous nous appelez de Kisangani en province orientale. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour l'invité. Bonjour à toutes les auditeurs de la radio Kabine.
On vous écoute, Daniel, par rapport au travail des humanitaires. Comment le rendre plus efficace?
Oui, Pierrot, c'est tout simplement de relancer encore ce travail humanitaire afin que de soutenir quasiment à notre déplacé ainsi qu'à toutes les populations qui se mettent à un temps difficile. Je voulais tout juste interpeller notre gouvernement à relancer encore toutes ces activités afin que de produire un taux vraiment qui est minimum afin d'aider toutes ces gens qui sont en temps qui sont en difficulté humanitaire.
Merci beaucoup Daniel. Vous avez souhaité de pouvoir soutenir l'action des humanitaires, mais par rapport à au pouvoir public, s'il y a une production locale, cette production locale peut aujourd'hui permettre facilement que les déplacés soient assistés dans leur milieu. On écoute carrément Pierre qui est à Lubumbashi. On revient dans ce studio. Pierre, vous êtes avec nous. Bonjour. Pierre, bonjour. Vous êtes avec nous de Lubumbashi.
Merci Monsieur Pierrot, merci Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous
bonjour
écoute,
à l'invité.
Voilà, merci Pierrot. On vous écoute par rapport à l'efficacité de l'aide humanitaire. Qu'est-ce qui doit être fait?
C'est une action qui doit être encouragée certainement, parce que cette action est en train de montrer à suffisance que nous avons un cœur, parce que un homme qui a un cœur s'occupe aussi de la souffrance de l'autre. Hein.
Mm-hmm.
Si dans un pays ou si dans une famille, les uns mangent, les autres ne mangent pas, cela doit interpeller aussi ceux qui mangent, qui sont aussi humains, et ils doivent se mettre à la place des autres. À ce fait, je suis en train d'encourager cette action humanitaire qui est en train de s'entreprendre au travers le monde, par cet organisme international, et aussi au travers des différents pays qui sont en train de se donner pour arriver en aide à ceux qui sont dans ces situations un peu difficiles. Mmh. Alors, je voudrais juste dire que cette action humanitaire doit vraiment être efficace au travers des différents principes, au travers des différentes méthodes qu'ils doivent appliquer pour que ces aides arrivent certainement à la destination. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de chercher à s'enrichir au travers les aides qui sont en train de prendre de ces organisations-là, qui doivent être affectées, n'est-ce pas, à ces personnes-là qui en ont besoin, mais qui sont en train de les détourner et par après. Hein. Vous comprendrez, Monsieur Pierrot, que et quelque part, on est acteur dans ces organisations humanitaires, mais on n'a pas le cœur d'agir. Ça demande de la confiance parce que toutes les choses qu'on est en train de mettre ensemble pour affecter à ces gens n'arrivent pas à destination comme on les a envoyés. Alors là, j'aimerais juste soulever un problème du contrôle, hein, que l'organisation d'infrastructure puisse vraiment arrêter des mesures pour bien contrôler afin de s'assurer certainement de l'arrivée de ces histoires à la destination. Et j'avais aussi une question à poser à notre invité qui est là.
Mm-hmm.
Je ne sais pas, les réfugiés, par exemple, qui sont dans d'autres pays, par exemple, les réfugiés congolais qui sont dans d'autres pays, est-ce que la RDC, notre pays, arrive en aide à ces gens, ou soit cela dépend seulement de l'organisation qui est internationale, l'organisation mondiale, ou soit si aussi ces organisations humanitaires arrivent aussi en aide à certains orphelins et à certaines veuves qui se retrouvent dans des orphelinats et dans des maisons hospitalières comme ça.
Merci beaucoup Pierre. Vous avez souhaité qu'il y ait par exemple les contrôles efficaces pour s'assurer qu'effectivement l'aide arrive aux victimes, aux bénéficiaires. Et vous avez posé la question à notre invité de savoir si au niveau de l'organisation humanitaire, comment on s'occupe des réfugiés congolais qui sont ailleurs dans d'autres pays. Est-ce que les humanitaires s'occupent des veuves, des orphelins, ceux qui sont dans les hommes des vieillards, voilà ce qui a été expliqué au début de cette émission par notre invité. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir. Nous allons donner le temps à notre invité de pouvoir réagir, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de lutteurs qui sont intervenus, plusieurs pistes et des solutions. On va revenir à tout cela, mais ceux qui ont besoin d'intervenir en direct, appelez-nous à ces numéros-là.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Nous revenons à vous, Yvon et Doumo. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Il y a des pistes et des solutions pour rendre l'aide plus efficace, mais il y a aussi des préoccupations qui vont de comment on agit sur le terrain, qu'est-ce qui détermine l'action des humanitaires, mais aussi des questions qui ont tourné autour de plusieurs actions à mener. On vous écoute.
Merci. Alors, effectivement, il y a eu pas mal de questions. J'espère pouvoir tous les aborder. Commençons par Kananga, où l'intervenant posait la question sur les expulsés d'Angola. Effectivement, c'est une situation qui nous préoccupe depuis plusieurs années, puisque ce n'est pas un phénomène nouveau.
Oui.
Et effectivement, ces personnes sont assistées par des ONG qui sont sur place dans la province pour pouvoir permettre à ces ces Congolais qui ont été expulsés d'Angola de pouvoir retrouver des moyens de subsistance, de pouvoir les aider. Donc à ce niveau, comme je disais tantôt, il y a une assistance qui est en place pour ces personnes afin que leur retour au pays se fasse dans les conditions les plus humaines possibles. Notre ami, je pense Omar, si je ne me trompe pas, de Kinshasa avait, a soulevé des bons points sur le droit. Effectivement, oui, il existe une multitude de textes nationaux et internationaux qui régissent l'action humanitaire. Et effectivement, mais je pense qu'il est important de noter, certes, l'aide, les États ont obligation d'aider, mais cette aide n'est possible qu'à travers des fonds, à travers des financements.
Oui, on va revenir à vous, on va revenir à vous rapidement, Yvon Edmou, le temps de pouvoir écouter un auditeur. On va revenir à vous.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19 h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19 h. Appelez le 081 890 64 89.
Voilà, on revient à vous, Yvon, et Dumont, on a essayé d'arranger les petits sujets que nous avons. Maintenant, vous pouvez continuer.
Alors,
c'est en train d'évoquer les différents textes.
Oui, les différents. Donc, okay. Il existe de nombreux textes nationaux et internationaux qui régissent effectivement l'action humanitaire. Mais le nerf de la guerre, pour parler ainsi, hein, passez-moi l'expression, c'est effectivement les financements. Mm-hmm. Bien que des États puissent signer et ratifier des textes, il faut après passer au concret. Le concret, ça veut dire il faut qu'ils financent cette action-là. Il faut qu'ils mettent de l'argent pour que les agences et les ONG puissent répondre aux besoins. Donc, Omar mentionnait, est-ce qu'il y a des fonds? Je sais qu'au niveau des Nations Unies, il y a de nombreux fonds dont la RDC en bénéficie depuis plusieurs années. Nous avons un fonds qui s'appelle le Fonds Central de Réponse d'Urgence, et qui ces dernières années a fait de nombreuses allocations à la RDC, notamment dans le domaine du choléra et d'autres domaines pour répondre. Il y a aussi basé ici à Kinshasa un fonds qu'on appelle le Fonds commun humanitaire, qui en fait ce sont des bailleurs internationaux qui ont décidé de mettre ensemble une sorte de mutualiser leur contribution afin que au niveau du pays on puisse répondre à ces aux besoins. Donc les fonds en tout cas au niveau des fonds internationaux ou même au niveau de certains pays, il existe. Après, c'est juste question de pouvoir démontrer l'urgence de la nécessité d'appliquer ces fonds-là ici en RDC.
Il y a notre ami Machaka qui est revenu sur la production locale, hein, parce que de chaque fois quand on importe, ça pose aussi des problèmes de coûts, tout ça. Y a-t-il des programmes comme ça où on peut rendre les producteurs locaux capables de pouvoir produire et qu'on recourt à cela pour assister à...
Ben, effectivement, le PAM et les agences qui sont impliquées dans la nutrition et la sécurité alimentaire ont plusieurs mécanismes qui permettent des productions locales, qui permettent aux familles de se prendre en charge. On peut citer par exemple le programme Travail contre nourriture, où c'est un programme où on permet à certaines personnes de travailler et en retour elles reçoivent de la nourriture qu'ils servent à la famille. C'est aussi le programme des cantines scolaires où on encourage les enfants à venir à l'école. En retour, on leur donne soit de la nourriture ou même parfois des semences agricoles qui peuvent être utilisées par les familles plus tard. Donc effectivement, les mécanismes ce genre de programme existe effectivement pour favoriser, pour booster un peu l'économie locale et de ne pas toujours faire recours à des importations qui peuvent être coûteuses.
Et quand Omar a parlé du fonds humanitaire au niveau des États, que chaque pays puisse disposer de ces fonds, il y a notre ami Daniel qui a parlé du soutien. Est-ce qu'au niveau des Nations Unies, y a-t-il des programmes qui permettent à ce que les pays soient capables de pouvoir résoudre ce genre de questions pour éviter qu'on puisse rester un peu dans cette léthargie? On dit il y a des humanitaires, de toutes les façons, quand il y aura une crise, que ce soit l'insécurité, les humanitaires vont intervenir. Y a-t-il un programme comme ça qui permettre aux États un jour de pouvoir se prendre en charge et résoudre ces questions sans pouvoir recourir à l'extérieur?
Ben oui, c'est tout ça. J'allais dire, c'est le but ultime du travail que nous faisons. L'idéal serait que la RDC puisse revenir aux besoins à ces personnes déplacées sans l'aide des Nations Unies ou des ONG internationales. C'est ça le but ultime. Donc aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est effectivement d'appuyer les États à renforcer leur capacité nationale à assurer eux-mêmes la prise en charge des besoins humanitaires pour ne pas effectivement avoir recours tout le temps à ces aux partenaires étrangers ou à des organismes internationaux.
Mais il y a Pierre qui a tout à l'heure évoqué le problème du contrôle. Il a posé des problèmes. Il a dit, comment au niveau du système on contrôle pour s'assurer effectivement que ce soit l'argent des bailleurs de fonds, que ce soit ce qui est acheté, arrive vraiment à destination pour éviter des fois des spéculations où les gens croient que de toute façon les gens s'enrichissent sur les épaules de l'aide humanitaire. Mécanisme de contrôle.
Il existe beaucoup de mécanismes de contrôle. Figurez-vous, vous savez, l'argent, les contributions qui sont reçues des différents pays, ce sont des contributions des contribuables de certains pays là. Donc c'est un argent qui est suivi et auquel les États s'assurent que l'agence qui est destinée à recevoir ce fonds le reçoit et que l'aide qui est censée être achetée avec cette est effective. Effectivement, il y a eu quelques rares cas ces derniers temps où de l'aide alimentaire a été avariée ou peut-être n'était pas de bonne qualité, mais c'est vraiment des exceptions. Toutes ces agences, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de médicaments, que ce soit en termes de ces denrées périssables, subissent un contrôle très régulier parce que ça ne fait aucun sens fournir des produits j'allais dire avariés à des personnes qui sont dans le besoin. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc ça ne fait aucun sens. Donc il y a un suivi très rigoureux qui est fait parce que nous sommes redevables non seulement aux personnes qui ont besoin de l'aide, mais aussi nous devons aussi rendre compte à ces personnes qui nous donnent les financements. Donc quand un État ou quand un organisme vous prête des financements, à la fin du cycle, vous devez prouver, justifier comment est-ce que cet argent a été dépensé.
Il y a Ismaël qui est à Lubumbashi, Sylvain à Lubumbashi, Étienne à Guémena. Il y a peut-être cette question avant d'écouter les auditeurs, parce que nous avons commencé cette émission avec le programme alimentaire mondial. Et par exemple, quand le PAM dit que désormais on ne pourra donner qu'à ceux qui sont vraiment vulnérables, comment se définissent les priorités d'intervention des humanitaires sur terrain? C'est avec les bénéficiaires ou c'est l'humanitaire qui dit voilà, désormais je donne à celui-ci, je donne pas à celui-là, voilà ce qui est important, voilà ce qui n'est pas important?
Non, le travail humanitaire est un travail qui est devenu assez scientifique au fil des années. Et aujourd'hui, il y a une méthodologie, il y a une grille qui est suivie qui définit qu'est-ce que nous appelons vulnérabilité et qu'est-ce qui n'est pas vulnérable. Donc, juste pour vous dire que, par exemple, quelqu'un qui a perdu son emploi, certes, cette personne vit une situation de précarité, de vulnérabilité, mais il ne recevra pas une aide humanitaire d'urgence des Nations Unies ou des ONG. Nous parlons de situations qui affectent d'abord un grand nombre de personnes, mais aussi des situations qui ne sont pas du fait ou qui ont été souvent imprévues, qui ne sont pas du fait de ces personnes-là, comme des catastrophes naturelles. qui affecte une grande population, ou comme des effets de guerre, où la population se retrouve vraiment perdre leur maison, loin de chez elle, se retrouve sans rien, presque vide. Et là, dans ces cas-là, nous intervenons. Donc, il y a une distinction à faire entre par rapport à la définition de vulnérabilité. Mais comme je dis, c'est peut-être pas, ce serait peut-être un peu trop technique d'expliquer ici à l'antenne. Mais c'est un travail d'analyse, d'étude, d'enquête qui est menée sur le terrain pour déterminer effectivement qui est vulnérable, qui ne l'est pas, et quel type d'aide ils ont besoin pour leur famille.
Et c'est-à-dire que dans un camp des déplacés, par exemple, le niveau de vulnérabilité est différent?
Le niveau de vulnérabilité peut être différent. Si vous avez, par exemple, une famille déplacée qui a deux enfants et une autre famille déplacée qui a peut-être 10 enfants, hein, vous avez déjà, juste en termes de nombre, il y a déjà une différence. Mm-hmm. Vous n'avez pas donné la même quantité d'assistance et de nourriture et d'eau et de médicaments à ces mêmes personnes-là. Il y a aussi des personnes qui sont déplacées, qui se retrouvent dans un camp ou dans un site, mais qui vous disent, écoutez, nous on a juste besoin de pouvoir repartir chez nous et reprendre nos activités commerciales, champêtre, parce que voilà, j'étais agriculteur, ma femme était éleveur, et voilà. Donc il y a au sein des déplacés, il y a des différences, et nous essayons d'assurer que ce n'est pas une aide qu'on donne, une aide aveugle, voilà, bon, tout le monde est déplacé, ils ont tous les mêmes besoins. Non, on essaie quand même d'assurer que l'aide convient aux différentes communautés.
Oui, Ismaël, Sylvain et Étienne, on va vous accorder la parole 081-890-4969 pour intervenir dans cette émission qui s'épanche sur l'aide humanitaire. Comment rendre cela efficace et toucher à plus de ceux qui sont concernés? Vous pouvez intervenir. N'oubliez pas que nous en parlons avec Yvon Edoumou, qui est chargé de l'information publique à l'Agence de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, ici en RTC.
Parole aux auditeurs.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Menju, bonjour à l'invité.
On vous écoute, vous avez suivi les uns et les autres, quelle est votre intervention?
Je suis vraiment heureux de la contribution d'Omar et de Maître Machak et des autres que je dis bonjour. Vraiment, je suis très heureux, je commence avec un point biblique qui dit: l'État et les événements imprévus nous arrivent à tous. Tu sais, un jour, sur un arbre fait tomber, je suis une maison de Pierrot et la Mèche. Mm-hmm. C'est tout à fait difficile. Alors, en matière, on peut commencer une prévention comme une aide morale et intellectuelle. Alors, au titre d'exemple de ceux qui sont expulsés en Angola du jour au jour, ou des années en année, ça fait presque 32 ans ou 36 ans que la guerre a commencé en Angola, où on fait l'expulsion des Congolais. Juste au début du mandat de Joseph Kabila, on a dit que le passeport devait être à $120. Mais aujourd'hui, nous sommes à $200. À quel genre d'effort on peut effectuer pour avoir ce passeport? C'est ça ce qui cause plus aussi de dégâts. Quand tu pars sans être en ordre, ça va être difficile. Sinon, l'État devait commencer à soutenir, à aider d'abord la population d'avoir ses notes de voyage, en vue qu'il soit en ordre, pour qu'un jour ne puisse pas être expulsé de là où il est, dans des conditions où il peut laisser même son argent de poche là où il était. C'est ça la première des choses. Mm-hmm. La deuxième des choses, Lubumbashi a été frappé par une épidémie que vous connaissez tous, le choléra. J'étais même victime de ma petite sœur. C'était vraiment une aide qui était une aide palpable et soutenue. Et qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On devait voir les gens venir nous vendre même les perfusions physiologiques dont on peut refuser ceux qui étaient victimes. C'était, premièrement, c'était d'abord difficile parce que moi, je vais quitter Kampemba. Je n'ai pas pris le véhicule, j'ai pris la moto moi-même pour aller à la Katouba si c'est ici. Et nous sommes arrivés en un jour, la petite sœur s'était établie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? La ville de Lubumbashi, c'est une ville, vous voyez l'apparence, une très belle ville. Comment on peut aider l'humanité pour qu'elle ne puisse pas tomber dans des épidémies? On peut d'abord commencer par les installations sanitaires, la gestion de déchets, des abris. On peut commencer à gérer ces genre de choses pour qu'on ne puisse pas avoir aussi des difficultés. Parce que les temps et les événements imprévus nous arrivent à tous. Maintenant, si on éduque aux gens, si on aide intellectuellement, voyez, les forces sceptiques, ce sont de petits canaux qui passent. Là, on érige les forces sceptiques. C'est tout à fait difficile. Il y a un endroit où nous avons passé avec un frère qui est venu de l'autre côté. Il m'a dit non. Même ici, si le choléra viendra, tout ce quartier sera vraiment contaminé. Si on commence à aider d'abord l'humanité dans ces genres, on peut avoir une solution claire. Allons à la situation de la guerre pour aider aussi l'humanité. Pourquoi nous avons la guerre? Et la guerre là n'est pas généralisée, c'est d'un coin et d'un autre. Et quand c'est là, ça prend beaucoup de choses et beaucoup de dépenses. À la question dont je me suis posé, budget qu'on a voté pour cette année, on a prévu combien de pourcentages pour tous ceux qui seront déplacés, on peut les aider et pour qu'ils puissent aussi s'en occuper pour le besoin physique, moral et hospitalier. Je vais dire qu'on peut d'abord commencer par la racine. Un bon arbre produit de bons fruits, mais ça n'a pas bien entretenu, ça ne peut pas avoir quelque chose. Qu'est-ce que nous remarquons? Il n'y a pas de sanctions comme Omar avait dit. Les États-Unis d'Amérique, comme une supérieure, devaient vraiment prendre en compte les zones GD. Puis, on finance du jour après jour. Et ces fonds, nous l'envoyons vraiment l'effort.
Ismaël, pour se recadrer un tout petit peu. Ismaël, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Ismaël, pour ne pas aller un peu partout. Vous avez insisté sur deux choses. Il y a beaucoup d'auditeurs qui voudraient intervenir. La première chose, par rapport aux catastrophes naturelles, vous avez évoqué les choléras, comme l'a dit aussi notre invité. Ici, vous souhaitez qu'on puisse d'abord avoir des mesures en amont, la propreté, par exemple, la lutte contre l'insalubrité qui fait qu'on puisse éviter le choléra. Et qu'on ne puisse pas recourir aux interventions humanitaires quand les gens sont déjà touchés et par rapport à la situation des guerres. Et vous avez voulu savoir au niveau du budget la part allouée à l'humanitaire dans ces budgets 2014 pour qu'on puisse savoir comment prendre venir en aide aux déplacés. Mais ici, vous voudrez bien parler des sanctions pour ceux-là qui pourront pas destiné à porter, à mener l'aide aux destinataires, à ceux qui sont concernés. C'est ce que vous avez évoqué. Vous souhaiterez qu'il y ait des sanctions, comme le disait tout à l'heure Omar. C'est ce qui a aussi été évoqué par notre invité. Merci beaucoup, Ismaël, de nous avoir appelé de Lubumbashi au Katanga. Nous avons aussi Sylvain qui est dans la même ville, à Lubumbashi. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Gilles. Merci beaucoup pour m'avoir accordé pour la première fois la parole.
Merci aussi de vous joindre à parole aux auditeurs pour la première fois, Sylvain. On vous écoute.
Ok. Je tiens sincèrement à remercier d'abord toutes les actions des humanitaires qui sont en train de se réaliser ici dans notre pays. Ce sont les gens vraiment qui exercent un grand travail avec beaucoup de difficultés et beaucoup d'efforts. Et si j'étais vraiment les remercier, si j'ai demandé aussi à l'ensemble des peuples congolais de pouvoir un peu les rendre hommage à ces gens-là. Mm-hmm. Il se pose un grand problème, monsieur le journaliste. D'abord, c'est la compréhension d'abord des termes ONG par la population congolaise. Pas seulement les termes, et même les actions des ONG par la population congolaise. Si vous analysez bien l'ensemble des interventions qui s'est passé depuis le début de l'émission jusqu'à présent, il semblait que les gens n'ont pas bien compris les actions du gouvernement et les actions des ONG. Ou certains confondent les actions du gouvernement et les actions des ONG. Mais dans l'ensemble, nous devons remercier d'abord l'ensemble des actions que mènent les ONG. Mais ce que je peux demander d'abord, en première position, est-ce que les agents, les humanitaires en soi, peuvent exercer quand même un contrôle efficace sur le terrain? Parce que nous voyons les biens qui sont destinés à livrer aux gens, aux déplacés, on les trouve au marché en train de les vendre. Ça pose problème. Et en plus de ça, du côté du gouvernement, est-ce que le gouvernement peut aider les humanitaires à exercer un travail équitable, notamment arranger d'abord les routes? Vous voyez, à l'intérieur, pour accéder sur le site des actions, ça pose un très grand problème. Les équipes des humanitaires font même 3-4 semaines sans les déplacements. Alors, c'est un grand problème aussi. Il y a aussi nos frères qui attaquent souvent les convois des humanitaires. Ce sont ces gens-là qu'il faut vraiment opérer les arrêter et en fait
le travail qui s'est fait. Voilà, merci beaucoup Sylvain pour cette intervention. Vous avez loué le travail qu'accomplissent les humanitaires, hein, ainsi qu'il faut le rendre hommage. Mais vous revenez sur le problème de la compréhension même du travail de l'humanitaire. Vous avez dit en écoutant les auditeurs, des fois les gens ne comprennent pas qu'ils doivent faire, que font les humanitaires, quelles sont leurs limites et qu'ils doivent faire aussi le pouvoir public. Vous aurez souhaité que les gens puissent avoir cette compréhension là. Les contrôles du travail sur terrain, c'est important, mais l'État doit faciliter aux humanitaires le travail, hein, en dotant le pays des infrastructures routières qui permettent que l'aide soit acheminée sans beaucoup de difficultés, mais aussi la lutte contre l'insécurité. Merci beaucoup, Sylvain. Étienne, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs.
Non, on vous écoute, Étienne. On tend déjà vers la fin de cette émission. Votre point de vue par rapport au travail des humanitaires et comment rendre cela efficace?
Ok, merci beaucoup. Comme les professeurs ont dit là, nous louons et félicitons les travaux ou les actions menées par les humanitaires dans la province de l'Équateur et dans le Sud-Ubangi en particulier. Surtout quand le Sud-Ubangi a connu des petits problèmes à Dongo, à Yele, et ainsi de suite. Là, on a senti que les humanitaires ont eu très rapidement à assister les déplacés, à assister les démunis, les vulnérables. Mais ce qui est à dire maintenant, et parce que quel est le mécanisme qu'il faut faire pour rendre efficace le travail ou les travaux des humanitaires? Moi, je pense que, en tout cas, comme un des prédécesseurs venait de dire là, vraiment notre gouvernement, l'État congolais devrait vraiment travailler en étroite collaboration avec les humanitaires. Aussi, ne pas seulement laisser les humanitaires agir seuls, mais les venir en aide. Donc, dans le budget de la République, on pourrait avoir quand même quelque chose de consistant parce qu'on puisse assister aux humanitaires, ce serait bonne chose. Mm-hmm. Mais je voudrais ici parler, monsieur le journaliste, à ce qui concerne le programme alimentaire mondial PAM et dans les volets cantine scolaire. Vraiment, c'est une activité qui a soulagé tant soit peu les élèves et qui avaient vraiment attiré les enfants à aller à l'école. Parce que les enfants s'attendaient quand même que quand ils sont à l'école, au retour, ils peuvent avoir quelque chose à manger, des bouillies, soit du riz, quelque chose à manger. Mais, grande notre surprise, moi personnellement, PAM a supprimé ce système dans les écoles de la place. Ça a connu quand même une certaine déperdition, si on peut le dire, parce que voilà, les enfants, surtout des premières là, allaient à l'école pour des intérêts, parce qu'ils savaient qui a mangé. Cela a été supprimé, on ne sait pas le pourquoi, mais aussi je voudrais encourager que les femmes puissent vraiment, qu'on puisse appuyer la production locale. Parce que, comme vous savez, la province de l'Équateur, le Sud-Ubangi, et à vocation agricole. Nous avons tant de maïs, nous avons tant d'espace qu'on peut cultiver et avoir tout ça. Il suffit seulement d'avoir les machines. On aurait des maïs ici, on peut seulement moudre, on aura beaucoup de choses.
Merci,
au lieu
merci
d'importer
beaucoup.
Des choses qui amènent des coûts.
Voilà, on venait de l'évoquer d'ailleurs tout à l'heure avec... Merci Étienne, on venait d'évoquer tout cela tout à l'heure avec notre invité. Vous avez souhaité la collaboration entre les humanitaires et les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics aussi puissent avoir un budget alloué conséquent pour l'action humanitaire. Pourquoi les PAM a-t-il arrêté les programmes cantine scolaire à Guémena, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants qui partent à l'école parce qu'ils étaient encouragés par cela, ils ne vont pas. Il faut encourager la production locale. Merci. Voilà autant de réactions qui sont revenues, mais plusieurs personnes saluent l'action humanitaire et souhaitent qu'il y ait une parfaite collaboration entre les pouvoirs publics et les humanitaires pour faciliter leur travail. On revient à vous, Yvon Edomo, parce qu'on va terminer cette émission. Dans l'ensemble, les auditeurs ont salué l'action humanitaire, mais plus ils souhaitent qu'il y ait une collaboration entre les pouvoirs publics et les humanitaires, sans oublier aussi les efforts à faire sur les plans locaux pour la production et la lutte contre l'insécurité. Voilà autant de propositions. Qu'est-ce qu'on peut retenir, parce qu'on va terminer cette émission par là pour la conclure.
Oui, merci. Oui, effectivement, un bon nombre de commentaires sont très valables. Je vais peut-être revenir sur un ou deux rapidement avant que nous ne clôturons. Notre ami Sylvain Lumbashi a parlé des routes. Comme je disais tantôt en début d'émission, c'est un défi pour nous, les routes. Le fait de ne pas pouvoir accéder à certaines parties du pays, mais aussi le fait d'avoir des routes réhabilitées aussi a un double bénéfice, tant pour nous les humanitaires, mais aussi juste pour l'économie locale du Congo. Quand une route est réhabilitée, c'est pas seulement les humanitaires qui l'empruntent, mais c'est toute la population qui emprunte, qui bénéficie, donc les commerçants qui doivent évacuer leurs marchandises et vice versa. Donc voilà, c'est un programme sur lequel nous travaillons, et bon voilà, ça c'est un programme qui est coûteux, mais on y est. La question du choléra qui a été évoquée aussi à Lumbashi, effectivement le choléra, le Katanga a été fortement frappé par le choléra cette année, l'année 2013, c'était la province la plus touchée. Beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de financements ont été mis, mais effectivement il est important de rappeler aux gens les mesures d'hygiène pratiques de base qui peuvent atténuer la propagation de la maladie, se laver les mains, laver la nourriture et tout ça. Je pense qu'en guise de conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que les agences humanitaires sont ici au Congo à l'invitation des autorités congolaises. Il y a une collaboration entre ces deux structures. Et nous sommes là pour soulager cette population. Le système n'est pas parfait, mais on y travaille.
Merci beaucoup Ivo Edmou d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs, vous avez été très nombreux à commenter cette émission.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
On se retrouve demain vendredi. Près de 80 000 personnes à Kinshasa sont drépanocytaires et les traits S se situent entre 30 et 35% au sein de la population. Ceci a été annoncé le 23 janvier dernier par le docteur Ange Ngondé, coordonateur du réseau drépanocytose en RDC, à l'annonce de l'augmentation des centres de dépistage de l'anémie SS dans la ville de Kinshasa où on enregistre au moins 2% des naissances drépanocytaires. Quelle est la situation de la prise en charge des drépanocytaires dans votre milieu? On se retrouve demain à 11h03, heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Au revoir.